Il est 8h33 secondes, plus qu'une heure avant la pause. On pense déjà au sandwich poulet pané sauce tartare qu'on va s'envoyer. Mais ça se mérite.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
D'abord le boulot, Thierry Nicolet.
Le boulot.
Thierry Nicolet nous présente le flash. Bonjour Thierry.
Bonjour Loïc, bonjour à tous. Une école de parfumeurs créateurs a vu le jour la semaine passée à Saint-Gingolph. L'objectif de cet établissement, permettre à des étudiants de découvrir la création de parfums avec des matières naturelles, mais aussi comprendre tout ce qu'il y a autour, en passant par l'explication des normes jusqu'au meilleur contenant pour mettre en valeur le parfum. Et c'est une première, comme l'indique Jean-Loïc Cello, le fondateur de l'école suisse de parfumeurs créateurs.
Alors, elle est tout à fait unique, effectivement, parce que il y a peu d'écoles ou pas d'écoles qui forment des compositeurs de parfums, c'est-à-dire des nez, des créateurs de parfums. La raison, c'est que l'industrie a besoin de très peu, parce que l'industrie est très, comment dirais-je, concentrée, et donc il y a très très peu de nez.
Des propos recueillis par Léa Journaux. À noter encore que les prochaines sessions d'inscription auront lieu en juin 2023. La municipalité de Monthey aura ses 20 nouvelles salles de classe primaire au Mabillon. Le projet, longtemps bloqué par des oppositions, peut aller de l'avant. Le tribunal fédéral a donné gain de cause à la ville la semaine dernière. En plus de nouvelles infrastructures scolaires, parascolaires et sportives, le projet Mabillon prévoit d'autres réorganisations. Stéphane Coppet, président de la commune de Monthey.
La direction qui se trouve actuellement au nouveau collège sera déplacée dans de nouveaux bureaux pour mieux accueillir les parents. Les places de parc vont disparaître. La volonté, c'est réellement d'avoir des accès pour les transports publics, pour la mobilité douce, des zones de dépôt pour les parents. Les 8 salles de classe du Mabillon seront placées dans la nouvelle école. Une des sensibilités que l'on avait mis en évidence dans le concours d'architecture, il fallait garder le plus possible les arbres qui ont plusieurs décennies. Et donc, ça sera le cas lors de la construction.
Le montant total du projet est de 49 millions de francs. Les travaux commenceront début d'année prochaine pour une durée de 4 ans. Un sujet proposé par Guillaume Abbé. 1500, soit 300 de plus qu'espéré. La Bobo a trouvé son public. Alors que l'offre de lancement est échue depuis fin août, les ventes de ce pass culturel valaisan dépassent les attentes de ses instigateurs. Lorenzo Malaguerra est directeur du théâtre du Crochetant à Monthey, l'un des 35 lieux culturels accessibles grâce au Sésame. Pour lui, ces chiffres ont un effet évident sur les réservations.
Alors là, ça dépasse vraiment toutes nos attentes. En tout cas, c'est une première tendance. On a une augmentation de la fréquentation qui est assez importante avec des salles remplies à 50% avec la Bobo. Et donc ça, c'est pas du tout ce que j'imaginais. J'imaginais qu'il y aurait quand même beaucoup moins d'effet de la Bobo là-dessus. Et en fait, on a une vraie augmentation de fréquentation qui est vraiment très réjouissante, surtout dans cette période post-Covid.
Ouais, vous êtes même à des niveaux supérieurs du pré-Covid de 2019.
On est à des niveaux très supérieurs en termes d'abonnements, ouais, puisqu'on était plutôt à 20-30% de salles remplies avec des abonnements chez nous. Donc on a augmenté de 20-30% la fréquentation. Ouais, c'est assez incroyable.
Des propos recueillis par Justin Gray. Depuis le 1er septembre, les détenteurs de la Bobo ont donc accès à 35 lieux culturels valaisans, répartis entre Monthey et Brigue. À noter que vous pouvez retrouver l'interview complète de Lorenzo Malaguerra sur notre site internet. La députée Joëlle Minacci de Décroissance Alternative a interpellé la semaine passée le Conseil d'État vaudois sur les contrats des assurances maladie. Et parmi elles, Elzana est dans la tourmente. La caisse maladie est accusée d'octroyer des rabais aux femmes qui s'engagent à renoncer à une interruption de grossesse. Elle propose ainsi des conditions particulières sur les assurances complémentaires aux membres de ProLife, une association anti-avortement. Face à cette problématique, la représentante de Décroissance Alternative demande une prise de position au gouvernement vaudois. Les explications de Joëlle Minacci.
Le droit à l'avortement est attaqué par le biais du droit privé, en fait, parce que les assurances complémentaires, elles relèvent du droit privé. Et puis c'est ça qui est problématique, c'est de se dire que, en fait, faute de pouvoir attaquer frontalement le droit à l'avortement, des associations ou des mouvements anti-avortement vont utiliser des méthodes un peu plus insidieuses, comme le droit privé, où elles ont plus de liberté pour pouvoir faire passer, des idées réactionnaires et des attaques au droit à l'avortement. Et puis, ce qui est problématique, c'est qu'on peut se dire aussi, c'est le fait de renoncer à l'avortement va favoriser des personnes au détriment de celles qui n'y renoncent pas et qui, du coup, vont pas avoir des baisses de coûts, en fait.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM. Selon le porte-parole d'Elzana, aucun lien n'est à faire entre les rabais faits à cette association. En effet, d'après Gaël Saïen, des rabais sont souvent accordés à différentes entreprises du moment qu'elles atteignent une certaine taille. À l'étranger, un incendie a fait 12 morts et 11 blessés cette nuit dans un karaoké à Binh Duong, près de Ho Chi Minh-ville, dans le sud du Vietnam. Les équipes de secours sont actuellement sur place à la recherche de victimes. Le feu a détruit les 2e et 3e étages du bâtiment comportant 4 niveaux, piégeant les clients et le personnel à l'intérieur, a rapporté un média officiel. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier au Vietnam depuis celui d'un immeuble résidentiel à Ho Chi Minh-ville en 2018 qui avait fait 13 morts. Alerte rouge en Amazonie. 26% de l'écosystème de la région est irréversiblement détruit à cause de la déforestation, du trafic de drogue et de la contamination. Ont averti des dirigeants indigènes réunis à Lima. Elle se trouve à un point de non-retour. Les 74% restants nécessitent une protection immédiate, indique le rapport. Celui-ci ajoute que la température augmentera de 2 degrés si la déforestation se poursuit à ce rythme. En football, l'équipe de Suisse féminine a réussi un carton mémorable à Lausanne en conclusion des qualifications de la Coupe du Monde. Elle a écrasé une Moldavie d'une faiblesse concernante sur le score de 15-0. Ce succès n'a cependant pas permis aux Suissesses de décrocher un ticket direct pour la phase finale du Mondial 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. L'Italie n'a en effet pas trébuché à domicile contre la Roumanie en s'imposant 2-0 et finit avec 2 points d'avance sur la Suisse. La Suisse devra donc passer par la case barrage si elle veut disputer la Coupe du Monde l'an prochain. Et on termine avec du tennis. Casper Ruud est le premier qualifié pour les demi-finales du simple messieurs à l'US Open. Solide vainqueur 6-1, 6-4, 7-6 de Matteo Berrettini hier soir, le Norvégien peut donc toujours espérer la première place mondiale lundi prochain. Finaliste malheureux ce printemps à Roland-Garros, Casper Ruud est en effet avec Carlos Alcaraz l'un des deux joueurs susceptibles d'empêcher un retour de Rafael Nadal au sommet de la hiérarchie. Casper Ruud affrontera Karen Khachanov vendredi en demi-finale.
Tu l'as, le truc là sur le foot féminin, ils sont un peu durs. Comment ils ont dit?
Une Moldavie d'une faiblesse consternante.
Bah, ça va, merci pour les Moldins.
Bon, 15-0, bon.
Ouais, ok. Wow, c'est dur, c'est dur. Oula, allez, on va passer à la météo.